Et on passe la parole à notre ami Luc Lavoie qui va nous faire le tour du monde de la COVID.
Ben, le monde va être réduit à quelques endroits clés. D'abord au Québec, évidemment, où on compte maintenant 4885 décès, donc 91 de plus qu'hier, 52 143 cas positifs, donc 259 de plus qu'hier. Au Canada, on en est à 7578 décès et 94 628 cas de contamination. Et la crise du COVID ramène à l'avant-plan une personnalité publique qui a fait beaucoup parler d'elle en 2019. Vous vous souvenez sans doute de la fracassante démission de la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, dans ce qu'on appelait l'affaire SNC-Lavalin.
Ben oui.
Elle avait tenté de se faire réélire en tant qu'indépendante, mais elle avait perdu.
Oui.
Le gouvernement conservateur de Doug Ford a recruté cette ancienne ministre libérale à titre de conseillère spéciale pour la création d'une plateforme de données sur la pandémie.
Ah ben ça, c'est bien, parce que tout le monde reconnaissait que cette femme-là était une femme compétente.
Oui, la Dr. Philpott présidera également la table ronde ministérielle sur la pandémie en Ontario.
Et politiquement, c'est très habile.
Mais c'est très, très habile, en effet. Par ailleurs, Statistique Canada a rapporté ce matin que la valeur des exportations canadiennes a reculé de 29,7% en avril pour atteindre son plus bas niveau en plus de 10 ans. Mm. C'est très alarmant pour un pays exportateur comme le nôtre.
Oui, oui.
En réponse aux questions des journalistes, le premier ministre Trudeau a refusé de dire si finalement il acceptera la demande du premier ministre québécois de prolonger jusqu'à la mi-septembre la mission des Forces armées canadiennes dans les CHSLD du Québec. Je pense que la réponse est à peu près connue. La réponse, c'est non. Il ne veut pas.
Ben, t'as peu.
Voici le scénario que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, Bernard.
Ben, il a dit, on va être là. On va continuer à aider le Québec. Fait que, regarde, on va l'écouter vite.
Notre priorité, c'est de s'assurer que les aînés au Québec reçoivent les soins qui sont si nécessaires pendant cette pandémie. Le Canada va continuer d'aider le Québec à reprendre le contrôle de ces centres-là et de ce système. Et nous sommes en discussion actuellement avec la province sur les meilleures façons de le faire.
Alors, Luc, ça...
Voici le scénario que je pense deviner.
Ouais.
C'est qu'ils vont graduellement se retirer à partir du 12 juin. Ils sont 1200 et qu'ils vont garder des militaires en présence dans les 5 endroits les plus chauds au Québec.
Bon.
Pour combien de temps, on le sait pas, mais je pense que c'est à peu près ça, le scénario.
Okay. Ben, on s'entend, ça va être graduel, ça sera pas, ils vont pas couper ça d'un coup. Mais t'arrives avec le chiffre de 5, tu devines que c'est 5 ou t'as des informations que ça pourrait être 5?
À ton choix.
OK, on ne s'étend pas sur le sujet.
Voilà.
Très bien, tu continues.
Puis, la dernière chose, la santé publique du Canada anticipe que le nombre de décès au pays atteindra de 7700 à 9400 décès d'ici le 15 juin, en plus d'un nombre total de cas allant de 97 990 à 107 454.
Ouais, mais j'ai l'impression, écoute, là, le 15 juin, là, c'est...
C'est demain.
Ben, c'est parce
c'est dans 11 jours.
Ouais, moi, j'ai l'impression, Luc, là, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on va être plus près du 7700 que du 9400. Là.
Je sais pas. Je le sais pas, Bernard. Mmh. Écoute, combien d'autres fax auront été perdus d'ici là?
Oui, non, tu as raison que si on a des morts accumulées quelque part qu'on n'a pas rapportées, c'est sûr que ça peut faire monter le chiffre rapidement. Tu as raison.
À l'échelle du monde, 6 640 182 cas confirmés, 389 957 morts. Et on apprend aussi que le coronavirus a contaminé 450 000 travailleurs de la santé dans le monde entier. Ce chiffre a été rendu public par le International Nursing Federation. Et là, ce matin, plus de 50 pays et plus de 35 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis par visioconférence pour déterminer comment récolter des fonds pour financer l'Alliance du vaccin, qui est une organisation qui a été créée il y a une vingtaine d'années, au départ essentiellement pour aider les pays en développement quand ils font face à des épidémies. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré à l'ouverture du sommet « Un vaccin contre la COVID-19 doit être vu comme un bien public mondial ». Alors, parlons-en de vaccin, Bernard.
Oui.
Il y a de bonnes raisons d'espérer qu'un vaccin contre le coronavirus sera disponible d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a soutenu la colonelle Wendy Salmon Jackson, qui dirige le programme de recherche sur les maladies infectieuses de l'armée américaine. Elle a précisé que ce vaccin pourrait à tout le moins être offert à une portion de la population. Un autre chercheur militaire américain, le docteur Kevion Mojarrad, a souligné que les scientifiques percent les mystères du coronavirus plus rapidement qu'ils ne l'ont jamais fait.
Bien, c'est sûr que les scientifiques des différents pays travaillent ensemble là, comme jamais auparavant là, parce qu'on fait face à une menace commune. Mais je vais te dire,
il va y avoir un grand débat quand le vaccin aura été trouvé, un ou deux ou trois vaccins. Comment on le distribue?
Mais il n'y aura pas juste un débat, Luc, il va en avoir au moins deux. Le deuxième, ça va être compte tenu de la vitesse avec laquelle on l'a développé. Est-ce qu'il est aussi sécuritaire que celui qu'on développe habituellement sur 7, 8 ans, 10 ans?
Ouais. Ben, je vais m'en remettre aux scientifiques là-dessus. Je veux dire, moi, tout ce que je sais, c'est que la crise va réellement prendre fin quand il va y avoir un vaccin ou une façon de traiter la maladie. La haute commissaire britannique au Canada, Susan Lejeune, a déclaré que 30 millions de doses d'un vaccin pourraient être disponibles dans son pays dès septembre, en raison du rythme rapide des essais cliniques menés par des chercheurs de l'Université d'Oxford dans une coentreprise avec la pharmaceutique AstraZeneca. Au Canada, la docteure Theresa Tan, notre administratrice en chef de la santé publique, estime qu'il y a actuellement 100 candidats vaccins. Tu sais ce qu'on veut dire par candidat vaccin, des vaccins en développement.
Oui.
Il y en a 100 à l'heure actuelle. Et à l'ouverture de du sommet par visioconférence, le premier ministre britannique, qui en était l'hôte en quelque sorte, Boris Johnson, a déclaré « J'espère que ce sommet sera le moment où le monde se rassemblera pour unifier l'humanité dans le combat contre la maladie. »
Oui.
Allons aux États-Unis, où là, boy!
Oui, oh boy! Bon,
alors commençons avec, comme d'habitude, on n'en parle presque plus, mais aux États-Unis, 919 décès au cours des dernières 24 heures. Ça porte à plus de 107 000 le nombre total de morts dans le pays et près de 1 850 000 cas ont été recensés. Alors, même si la pandémie ralentit dans le pays depuis le pic atteint à la mi-avril, les professionnels de la santé s'inquiètent avec les manifestations contre la brutalité policière et le racisme. Ils s'inquiètent d'une résurgence dans les semaines à venir. D'ailleurs, et là, on vient au cœur du sujet. Il est remarquable que les médias américains ne parlent presque plus de la pandémie. Ouais. Pratiquement tout l'espace éditorial est consacré à la crise intérieure. Ces manifestations-là se sont poursuivies dans plus de 140 villes, mais ça a été remarquablement pacifique. Par exemple, dans la ville de New York, ils ont procédé à 90 arrestations. La veille, c'était 250. Il y a un calme dans ces manifestations-là. Si tu les regardes à la télé, c'est assez rare. Mais les choses se compliquent un peu pour Donald Trump.
Ah oui?
Hier matin, le ministre de la Défense, Mark Esper, lui-même un ancien militaire, avait déclaré très clairement qu'il s'opposait au président qui voulait déployer les forces régulières pour écraser les manifestations.
Oui.
Cette fois, c'est le général 4 étoiles et ancien ministre de la Défense de Donald Trump, Jim Mattis, qui avait démissionné du gouvernement pour protester contre le retrait des troupes américaines de Syrie, qui a publié une lettre percutante, mais vraiment percutante, dans laquelle il dit, et je ne fais que citer un extrait, mais j'invite les gens à aller voir la lettre, elle est un peu partout sur l'Internet. Il dit, de mon vivant, Donald Trump est le premier président qui n'essaye pas de rassembler les Américains, qui ne fait même pas semblant. Ajoutant, j'ai observé le déroulement des événements de cette semaine, parlant de la semaine qu'on vit présentement, et je l'ai fait en colère et je suis consterné. Et Mattis a donné son appui aux manifestants et a décrit la situation actuelle en disant qu'elle était le résultat de 3 ans d'immaturité à la tête du pays.
C'est un bon mot pour qualifier le comportement de Trump, l'immaturité.
Et là, ce matin, Trump s'est déchaîné contre son ancien ministre. Il a dit qu'il était le général le plus surévalué au monde et que c'est avec plaisir qu'il avait exigé sa démission. Je suis très heureux qu'il ne soit plus en poste. Alors, il n'en fallait pas plus pour que l'ancien chief of staff du président, le général John Kelly, qui était demeuré pour l'essentiel muet depuis son départ de la Maison-Blanche, il a sorti publiquement pour confirmer que Mattis avait bel et bien démissionné pour une question de principe, ajoutant « Jim Mattis est un homme droit, Jim Mattis est un homme honnête ».
Wow, bravo.
Et pour la première fois depuis la sermentation de Trump, la loyauté absolue des élus républicains est en train de s'effriter. Ce matin, la sénatrice républicaine de l'Alaska, Lisa Murkowski, a déclaré que les paroles de Mattis tombaient à point. Elle a dit, j'ai le sentiment que nous arrivons au point où nous devons être plus honnêtes face à nos préoccupations et nous devons trouver le courage pour exprimer nos convictions profondes.
Ben, il serait temps que des élus républicains comme elle, là, commencent à se...
Je pense qu'il va en avoir
à se désolidariser de Trump. Et sais-tu quoi, Luc? Quitte à perdre ta convention, quitte à ne pas être le candidat républicain lors de la prochaine élection, mais je pense que l'histoire retiendrait de ces républicains qui soient de la Chambre ou du Sénat leur sens de l'honneur, leur sens de la droiture, puis de dire là, je peux plus rester avec ce gars-là, je peux plus juste faire semblant que ce gars-là est président. C'est une ordure, Trump. Ça n'a pas de bon sens.
Non, c'est un déchet, ça, c'est clair. Mais ça commence à débouler. Là. Quand on parle Esper, c'est pas rien. Là. C'est le ministre qui est en poste. Il dit à Trump, non. OK? Ensuite, t'as Mattis, qui est pas rien. C'était un gars très admiré aux États-Unis.
Ah oui.
Qui sort, puis qui parle de l'immaturité. Puis que, ouais, écoute, il fesse dans le tas. Et parce que Trump le dénonce, Kelly sort lui aussi, puis il dit c'est un homme de principe, ce que dit Trump est faux.
Je vais le défendre, c'est ça.
Et là, Murkowski, puis là, il va en avoir d'autres, j'en suis à peu près convaincu.
Soit-on-le.
Alors, je termine sur l'Amérique latine, Bernard.
Vite, Luc, s'il te plaît.
OK. Brésil, 1349 morts en 24 heures, un nouveau record pour le pays. Le Mexique a franchi la barre des 1000 morts au cours des dernières 24 heures pour la première fois depuis le début de la pandémie. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour là, de l'Amérique latine. On pourrait aller plus en détail, mais on manque de temps.
Demain, il y aura un demain.